Richesse des morts, richesse des vivants. Il est intéressant d'examiner plus précisément l'évolution historique du rapport mu entre la richesse moyenne parmi les défunts et parmi les vivants que nous avons représenté sur le graphique 11.5. On remarque tout d'abord qu'au cours des deux derniers siècles, des années 1820 aux années 2010, les défunts ont toujours été en moyenne plus riches que les vivants en France. Le rapport mu a toujours été supérieur à 100% et généralement très nettement supérieur à 100%, à l'exception de l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale, dans les années 1940-1950, où le rapport obtenu en omettant de réintégrer les donations faites avant le décès était très légèrement inférieur à 100%. Rappelons que, d'après la théorie du cycle de vie chère à Modigliani, le patrimoine devrait être accumulé principalement en vue de la retraite, notamment dans les sociétés vieillissantes, si bien que les personnes âgées devraient consommer l'essentiel de leurs réserves pendant leurs vieux jours et mourir avec peu ou pas de patrimoine. C'est le fameux triangle de Modigliani, enseigné à tous les étudiants d'économie, et selon lequel le patrimoine monte d'abord avec l'âge, à mesure que chacun fait des réserves en vue de la vie active. Le rapport mu devrait donc être systématiquement égal à 0%, ou tout du moins très faible, et en tout cas nettement inférieur à 100%. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette théorie du capital et de son évolution dans les sociétés avancées, tout à fait plausible a priori, plus la société vieillit, plus on accumule pour ses vieux jours, et plus on meurt avec un patrimoine faible, ne permet pas de rendre compte des faits observés de façon satisfaisante. De toute évidence, l'épargne en vue de la retraite ne représente qu'une des raisons, et pas la plus importante, pour lesquelles les uns et les autres accumulent des patrimoines. Le motif de transmission et de perpétuation familiale du capital a toujours joué un rôle central. En pratique, les différentes formes de richesse viagère, annuitized wealth, donc non transmissible aux descendants, représentent au total moins de 5% du patrimoine privé en France. Cette part monte au maximum à 15-20% dans les pays anglo-saxons où les fonds de pension sont les plus développés, ce qui est loin d'être négligeable, mais insuffisant pour modifier radicalement la fonction successorale du patrimoine, d'autant plus que rien ne dit que la richesse de cycle de vie se substitue à la richesse transmissible. Elle pourrait fort bien s'y ajouter. Nous y reviendrons. Il est certes très difficile de dire comment aurait évolué la structure de l'accumulation patrimoniale au cours du XXe siècle en l'absence des systèmes publics de retraite par répartition, qui ont permis de garantir un niveau de vie satisfaisant à l'immense majorité des retraités, de façon d'ailleurs beaucoup plus fiable et égalitaire que ne le peut l'épargne financière qui avait sombré à la suite des guerres. Il est possible qu'en leur absence, le niveau global d'accumulation patrimoniale, mesuré par le rapport capital-revenu, serait en ce début de XXIe siècle beaucoup plus élevé encore. Suivant l'expression consacrée, la retraite par répartition est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Toujours est-il que le rapport capital-revenu est approximativement au même niveau qu'aujourd'hui que ce qu'il était à la belle époque, quand le besoin d'accumulation en vue de la retraite était beaucoup plus limité compte tenu de l'espérance de vie, et que la richesse viagère représente une part à peine plus élevée du patrimoine total qu'il y a un siècle. On notera également l'importance des donations tout au long des deux siècles écoulés et leur envol spectaculaire au cours des dernières décennies. La valeur totale des donations représente chaque année environ 30-40% de celle des successions des années 1820 aux années 1860. Elles prennent alors souvent la forme de dot, c'est-à-dire de donations faites aux époux au moment du mariage, souvent avec des restrictions sur l'usage du bien fixé par contrat de mariage. Puis la valeur des donations diminue légèrement et se stabilise autour de 20-30% de celle des successions des années 1870 aux années 1960, avant d'augmenter fortement et régulièrement pour atteindre 40% dans les années 1980, 60% dans les années 1990 et plus de 80% dans les années 2000-2010. En ce début de XXIe siècle, le capital transmis par donation est presque aussi important que les successions proprement dites. Les donations expliquent près de la moitié du niveau atteint par le flux successoral actuel et il est donc tout à fait essentiel de le prendre en compte. Concrètement, si l'on oubliait de prendre en compte les donations faites avant le décès, alors on trouverait que le patrimoine moyen à l'âge du décès est en 2000-2010 à peine plus de 20% plus élevé que celui des vivants. Mais cela vient simplement du fait que les défunts ont déjà transmis près de la moitié de leurs actifs. Si l'on réintégrait dans le patrimoine des défunts les donations faites avant décès, on trouverait que le rapport mu, ainsi corrigé, est en réalité supérieur à 220%. Leur patrimoine corrigé est plus de deux fois plus élevé que celui des vivants. Il s'agit véritablement d'un nouvel âge d'or des donations, beaucoup plus massif encore que celui du XIXe siècle. Il est intéressant de noter que les donations, aujourd'hui comme au XIXe siècle, sont dans l'immense majorité des cas au bénéfice des enfants, souvent dans le cadre d'un investissement immobilier, et qu'elles se font en moyenne environ 10 ans avant le décès du donateur. Cet écart est lui aussi relativement stable dans le temps. L'importance croissante des donations depuis les années 1970-1980 permet donc de rajeunir quelque peu l'âge moyen du receveur. Dans les années 2000-2010, l'âge moyen lors des successions s'approche de 45-50 ans, mais l'âge moyen lors des donations est de l'ordre de 35-40 ans, si bien que l'écart avec la situation prévalant au 19e et au début du 20e siècle est moins massif que ce qu'indique le graphique 11.3, à savoir un âge moyen à l'héritage passant de 30 ans au 19e siècle à 50 ans au 21e. L'explication la plus convaincante pour cet envol graduel et progressif des donations, qui a commencé dès les années 1970-1980, bien avant les mesures d'incitation fiscale qui datent des années 1990-2000, est d'ailleurs que les parents qui en ont les moyens ont progressivement pris conscience, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, qu'il pouvait être justifié de permettre à leurs enfants d'accéder au patrimoine vers 35-40 ans plutôt que vers 45-50 ans. Ou parfois plus tard. En tout état de cause, quel que soit le rôle exact joué par les différentes explications possibles, le fait est que ce nouvel âge d'or des donations, que l'on retrouve dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne, est un ingrédient essentiel du retour de l'héritage actuellement en cours. Quinquagénaire et octogénaire, âge et fortune à la belle époque. Afin de mieux comprendre la dynamique de l'accumulation patrimoniale et les données détaillées que nous avons exploitées afin de calculer les coefficients mu, il est utile d'examiner l'évolution du profil du patrimoine moyen en fonction de l'âge. Nous avons indiqué dans le tableau 11.1 les profils pour quelques années de 1820 à 2010. Le fait le plus frappant et sans doute l'impressionnant vieillissement de la fortune tout au long du XIXe siècle, au fur et à mesure que le patrimoine devenait plus fortement concentré. En 1820, les personnes âgées sont à peine plus riches en moyenne que les quinquagénaires que nous avons choisis comme groupe de référence, 34% plus riches en moyenne pour les sexagénaires et 53% plus riches pour les octogénaires. Mais cet écart ne cesse de se creuser par la suite. Vers 1900-1910, le patrimoine moyen détenu par les sexagénaires et septuagénaires est de l'ordre de 60-80% plus élevé que celui des quinquagénaires, et les octogénaires sont deux fois et demi plus riches. Ajoutons qu'il s'agit là de la moyenne pour l'ensemble de la France. Si l'on se restreint à Paris, où se concentrent les patrimoines les plus importants, la situation est beaucoup plus extrême encore. À la veille de la Première Guerre mondiale, les fortunes parisiennes vieillissent de plus en plus, avec des septuagénaires et des octogénaires qui sont en moyenne trois fois, voire parfois plus de quatre fois, plus riches que les quinquagénaires. Certes, une majorité de personnes âgées décèdent sans aucun patrimoine, et l'absence de système de retraite tend à aggraver cette pauvreté du troisième âge. Mais au sein de la minorité qui possède du bien, le vieillissement de la fortune est extrêmement impressionnant. On pense naturellement à la vieille dame des Aristochats. De toute évidence, cet enrichissement spectaculaire des octogénaires ne s'explique pas sur les revenus de leur travail ou par leur activité entrepreneuriale. On les imagine mal créant des start-up tous les matins. Il s'agit d'un fait frappant, d'une part parce que cela explique le haut niveau du rapport mu entre la richesse moyenne au décès et celle des vivants à la belle époque, et donc l'importance du flux successoral, et d'autre part, et surtout parce que cela nous informe assez précisément sur le processus économique à l'œuvre. Les données individuelles dont nous disposons sont extrêmement claires sur ce point. La très forte croissance des patrimoines aux âges élevés, observée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, est la conséquence mécanique de l'inégalité R supérieure à G et de la logique cumulative et multiplicative qu'elle entraîne. Concrètement, les personnes âgées détenant les patrimoines les plus importants disposent souvent de revenus annuels issus de leur capital nettement supérieurs à ceux dont elles ont besoin pour financer leur train de vie. Supposons par exemple qu'elles obtiennent un rendement de 5%, qu'elles en consomment les 2/5 et qu'elles en réinvestissent les 3/5. Leur patrimoine progresse donc de 3% par an et elles seront à l'âge de 85 ans plus de 2 fois plus riches qu'elles ne l'étaient à l'âge de 60 ans. Il s'agit d'un mécanisme simple, mais extrêmement puissant, et qui permet de très bien rendre compte des faits observés, à la différence près que les fortunes les plus considérables peuvent souvent réépargner bien plus que les 3/5 du rendement obtenu, ce qui accentue le processus de divergence du patrimoine aux âges élevés, et que la croissance générale du revenu moyen et du patrimoine moyen n'est pas tout à fait nulle, elle est de l'ordre de 1% par an, ce qui modère légèrement le processus. L'étude de la dynamique de l'accumulation et de la concentration patrimoniale à l'œuvre dans la France des années 1870-1914, en particulier à Paris, est riche d'enseignements pour le monde d'aujourd'hui et pour l'avenir. Outre que les données disponibles sont exceptionnellement détaillées et fiables, et nous permettent de mettre au jour cette dynamique de façon parfaitement claire, cette période est en effet emblématique de la première mondialisation commerciale et financière. Elle se caractérise par des marchés de capitaux modernes et diversifiés, et par des portefeuilles complexes composés de multiples types de placements français et étrangers, à revenus variables et à revenus fixes, publics et privés. La croissance économique n'est certes que de 1,5% par an, mais comme nous l'avons vu, ce rythme est en réalité tout à fait substantiel si l'on se place d'un point de vue générationnel ou dans une perspective historique très longue. Il ne s'agit en aucune façon d'une société terrienne et statique. Il existe à cette époque de nombreuses innovations techniques et industrielles, la voiture, l'électricité, le cinéma et ainsi de suite, dont beaucoup ont d'ailleurs leur origine en France, au moins en partie. Entre 1870 et 1914, dans les fortunes françaises ou parisiennes observées à l'âge de 50 ans ou de 60 ans, toutes n'étaient pas des fortunes héritées, loin de là. On observe un nombre non négligeable de patrimoines industriels et financiers trouvant leur origine principale dans des activités entrepreneuriales. Il n'en reste pas moins que la dynamique dominante à l'œuvre, et qui pour finir explique la plus grande partie de la concentration patrimoniale, découle mécaniquement de l'inégalité R supérieure à G. Que la fortune à 50 ou 60 ans soit elle-même issue de l'héritage ou d'une vie plus active, le fait est qu'au-delà d'un certain seuil, le capital tend à se reproduire tout seul et à s'accumuler au-delà de toute limite. La logique R supérieure à G implique que l'entrepreneur tend toujours à se transformer en rentier, soit un peu plus tard dans sa vie, ce problème devient central à mesure que la vie s'allonge, le fait que l'on ait eu de bonnes idées à 30 ou 40 ans n'implique pas que l'on en ait encore à 70 ou 80 ans, et pourtant le patrimoine continue souvent de se reproduire tout seul, soit, bien sûr, au cours de la génération suivante. Quelle qu'ait pu être l'inventivité industrielle et le dynamisme entrepreneurial des élites économiques françaises du XIXe et de la Belle Époque, le fait central est que leurs efforts et leurs actions n'ont finalement fait que renforcer et pérenniser une société de rentiers, en grande partie à leur insu, du fait de la logique R supérieure à G. Le rajeunissement des patrimoines par les guerres. Cette mécanique auto-entretenue s'effondre à la suite des chocs violents subis par les capitaux, leurs revenus et leurs détenteurs au cours des années 1914-1945. Les guerres conduisent en effet à un très fort rajeunissement des patrimoines. Cela apparaît très nettement sur le graphique 11.5. Pour la première fois de l'histoire, et la seule fois à ce jour, le patrimoine moyen au décès est dans les années 1940-1950 inférieur à celui des vivants. Cela apparaît encore plus clairement lorsque l'on examine les profils détaillés par groupe d'âge, voire tableau 11.1. En 1912, à la veille de la guerre, les octogénaires sont plus de 2,5 fois plus riches que les quinquagénaires. En 1931, ils ne sont plus que 40% plus riches. Et en 1947, ce sont les quinquagénaires qui sont devenus les plus fortunés. Dans une société où les patrimoines dans leur ensemble sont, il est vrai, tombés à un niveau très bas, le fait est que ce sont maintenant les quinquagénaires qui sont devenus 50% plus riches que les octogénaires. Affront suprême, ces derniers sont même passés légèrement au-dessous des quadragénaires en 1947. Voici bien une époque où l'on remet en cause toutes les certitudes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le profil du patrimoine en fonction de l'âge a subitement pris l'allure d'une courbe en forme de cloche, d'abord croissante puis décroissante en fonction de l'âge, avec un sommet au niveau du groupe des 50-59 ans, soit une forme proche du triangle de Modigliani, à la différence importante près que la courbe ne tombe pas à zéro aux âges les plus élevés, loin de là. Alors que la courbe était systématiquement et continuellement croissante avec l'âge tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ce rajeunissement spectaculaire de la fortune s'explique simplement. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, tous les patrimoines sont frappés par de multiples chocs au cours des années 1914-1945. Destruction, inflation, faillite, expropriation et ainsi de suite. Si bien que le rapport capital-revenu s'est fortement réduit. On pourrait, là encore, penser que ces chocs ont frappé en première approximation tous les patrimoines de la même façon, si bien que le profil par âge du patrimoine demeure inchangé. Mais la différence est que les jeunes générations, qui au demeurant n'avaient pas grand-chose à perdre, ont pu se remettre de ces chocs plus aisément que les personnes âgées. Quelqu'un qui a 60 ans, en 1940, et qui perd tout son patrimoine dans un bombardement, une expropriation ou une faillite a peu de chances de s'en remettre. Il est probable qu'il décédera vers 1950-1960, à 70 ou 80 ans, avec presque rien à transmettre. À l'inverse, une personne qui a 30 ans en 1940 et qui perd tous ses avoirs, sans doute peu de choses, a encore largement le temps d'accumuler un patrimoine après la guerre, et il est probable qu'il sera vers 1950-1960 un quadragénaire plus riche que notre septuagénaire. La guerre agit comme une remise à zéro ou une quasi-remise à zéro des compteurs de l'accumulation patrimoniale et conduit mécaniquement à un grand rajeunissement des fortunes. En ce sens, ce sont bien les guerres qui ont fait table rase du passé au XXe siècle et qui ont donné l'illusion d'un dépassement structurel du capitalisme. Il s'agit là de l'explication centrale pour le niveau exceptionnellement bas du flux successoral dans les décennies de l'après-Seconde Guerre mondiale. Les personnes qui auraient dû hériter dans les années 1950-1960 n'ont pas grand-chose à hériter, car leurs parents n'ont pas eu le temps de se remettre des chocs des décennies précédentes et meurent avec peu de patrimoine. En particulier, cela permet de comprendre pourquoi l'effondrement successoral est encore plus massif que l'effondrement patrimonial. Près de 2 fois plus important. Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, le total des patrimoines privés est divisé par plus de 3 entre les années 1910 et les années 1950. Le stock de capital privé est passé de près de 7 années de revenu national à tout juste 2 années et demie de revenu national. Le flux successoral annuel est quant à lui divisé par près de 6. Il passe d'environ 25% du revenu national à la veille de la Première Guerre mondiale à tout juste 4-5% du revenu national dans les années 1950. Mais le fait essentiel est que cette situation ne dure pas longtemps. Par nature, le capitalisme de reconstruction n'est qu'une étape transitoire et non le dépassement structurel que l'on s'est pris parfois à imaginer. Dès les années 1950-1960, à mesure que le capital s'accumule de nouveau et que le rapport capital-revenu-bêta augmente, les fortunes se mettent à vieillir de nouveau, si bien que le rapport mu entre le patrimoine moyen au décès et celui des vivants remonte également. Le retour du patrimoine va de pair avec son vieillissement et prépare donc un retour plus fort encore de l'héritage. Le profil observé en 1947 n'est déjà plus qu'un souvenir en 1960. Les sexagénaires et les septuagénaires dépassent légèrement les quinquagénaires. Voir tableau 11.1. C'est le tour des octogénaires dans les années 1980. Le profil devient de plus en plus fortement croissant dans les années 1990-2000. En 2010, le patrimoine moyen des octogénaires est plus de 30% plus élevé que celui des quinquagénaires. Si l'on réintégrait dans le patrimoine des différents groupes d'âge les donations faites avant le décès, alors le profil serait beaucoup plus fortement croissant en 2000-2010, approximativement dans les mêmes proportions qu'en 1900-1910, avec des patrimoines moyens pour les 70-79 ans et les 80 ans et plus de l'ordre de deux fois plus élevé que ceux des 50-59 ans. À la différence près que la plupart des décès ont maintenant lieu aux âges les plus élevés, d'où un rapport mu sensiblement plus élevé. Voir graphique 11.5.